nous en parler à Culture. On jase avec M. André Laprise, qui est fiduciaire du fonds chorégraphique Fernando. Il est avec nous au téléphone. Bonjour, M. Laprise.
Bonjour, madame. Vous allez bien?
Oui, ça va bien, vous?
Oui, malgré tout ce qui nous tombe dessus, oui.
Donc, Fernando, c'est lui qui nous avait donné une relecture assez particulière, assez innovatrice de Casse-Noisette dans les années 60. Par contre, j'aimerais qu'on parle en détail de l'héritage de ce qu'a laissé M. No sur le monde de la danse. C'était quelqu'un, je présume, qui était super innovateur si on se fie à sa relecture de Casse-Noisette. Donc, parlez-moi un peu de cet homme-là.
Ce qui est intéressant, je pense, à considérer dans l'histoire de la danse, vous savez, comme dans à peu près n'importe quelle discipline, la relation maître-élève est toujours importante. C'est de cette façon-là que les apprentissages se transmettent. Fernando, à son jeune âge, dans les années, fin des années 1940, a eu le privilège d'être embauché à l'American Ballet Theatre à New York. Alors, pour un petit Montréalais, Québécois, Canadien, d'être embauché dans cette grande compagnie de prestige, c'était déjà une étape assez majeure, mm-hmm. pour ne pas dire magique. L'autre élément qui est intéressant, c'est qu'à cette période-là, les grands maîtres qui réécrivaient la danse œuvraient au sein de cette compagnie-là. Alors, ce que ça donne pour nous, Québécois, Canadiens, c'est que Fernando, lorsqu'il est revenu à Montréal après sa carrière de 21 ans au sein de la compagnie américaine, il a pu travailler auprès des gens ici et agir comme transmetteur. Alors, c'est un grand maître pour nous qui a eu la générosité et la disponibilité de partager son savoir au Québec et au Canada.
Donc, c'est quelqu'un aussi qui a une influence internationale en plus. Ses œuvres, ses créations ont été acquises et produites au pays, bien sûr, mais aux États-Unis, en Asie, en Europe, et j'en passe.
Oui, c'est assez remarquable pour un chorégraphe canadien d'avoir eu cette envergure-là à cette époque-là, d'une part, mais que cette envergure-là lui survivre, c'est encore plus magique. Ce genre de prestige-là appartient généralement à des gens qui ont une histoire de 200, 300 et 400 ans et qui nous viennent d'Europe. Alors nous, on a un Canadien qui aurait eu 100 ans et qui a des œuvres. Comme moi, personnellement, j'ai eu le privilège de remonter son grand Carmina Burana à Denver, au Colorado, en 2019, ça fait même pas 2 ans. Alors, c'est quand même assez intéressant et impressionnant. Je pense qu'humblement, on peut dire qu'on a des gens maintenant dans notre société, dans notre communauté, qui composent un patrimoine qui nous est identitaire, mais qui est très riche aussi, et de plus, qui est apprécié à l'international.
Monsieur Ono est revenu au Québec après son séjour américain dans les années 60. Les années 60 au Québec, c'était une période qui était encore super conservatrice, les valeurs traditionnelles persistaient, mais en même temps, c'était la révolution tranquille. Il y avait des changements aussi, un vent de changement qui s'abattait sur la société aussi, sur les jeunes. Quel a été l'impact, comment a été perçu, c'est-à-dire, Fernando, par la société québécoise à l'époque, peut-être par les pans un peu plus conservateurs? Est-ce que vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup changer les choses? Est-ce que bousculer le domaine de la danse? Est-ce que bousculer le domaine culturel québécois à l'époque?
Je ne vous dirais pas qu'il l'a bousculé, mais il a contribué à l'éduquer, à l'éveiller et à l'intéresser. M. No avait une grande préoccupation pour que la danse, pour que l'expression artistique, mais lui à travers la danse, soit accessible, c'est-à-dire que les gens puissent s'y sentir à l'aise. La musique est facilement accessible, le théâtre est facilement accessible ou plus facilement, on va dire, que la danse. Alors, M. No, si vous regardez, vous commentiez l'entrevue avec sa relecture de Casse-Noisette, c'est un excellent exemple parce qu'il a voulu adapter ce grand classique-là d'une façon à ce que les gens, peu importe de leur origine ou de leur milieu, se sentent intéressés, interpellés. Le grand talent de Fernando était son talent de metteur en scène et il avait une grande musicalité. Et il a mis au service le savoir qu'il avait en danse parce qu'il n'a pas réinventé le vocabulaire de la danse. Il a plutôt bien tricoté ce vocabulaire-là pour le mettre en valeur. Si vous regardez son Carmina Burana, c'est la même chose, c'est d'une grande poésie, mais d'une grande simplicité. Alors, c'est pour ça que c'est accessible. Ce qui est à noter aussi, c'est qu'à la période de la Révolution tranquille, autant que la communauté, la société était traditionnelle, elle voulait se réinventer. M. No était capable de transmettre la tradition, l'histoire, et il était un créateur hors pair. Alors, son Carmina Burana, il l'a fait d'une façon très poétique, mais quand il a mis de l'avant Tommy, le ballet qui a été créé sur un opéra rock, c'était la première fois que ça se faisait, ça l'a fait le tour du monde, ça l'a fait un grand succès financier et artistique pendant plus de 10 ans. Fallait le faire, là. Une compagnie de ballet classique qui dansait sur un opéra rock et qui faisait la tournée qui a été pendant à 4 reprises sur Broadway à New York, c'était pas dans les standards. Quand il a fait sa symphonie de psaumes présentée à l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal, c'était la première fois que la danse entrait dans le milieu religieux catholique. Alors, il n'a pas bousculé en faisant beaucoup de tapage, mais il a bousculé en ouvrant des portes et en ouvrant les œillères et surtout en permettant que la danse soit accessible au plus grand nombre.
Monsieur Nour a eu 100 ans en décembre dernier. Les activités de commémoration sont amorcées, mais ça va se poursuivre aussi tout au long de l'année 2021.
Oui, humblement, comme à titre de fiduciaire, bon, c'est difficile pour moi d'être objectif parce que je suis son fiduciaire, alors j'ai une préoccupation pour célébrer sa mémoire. Par contre, quand on voit l'importance du personnage, je pense que c'est important d'essayer de mettre de l'avant que ce soit une année anniversaire minimum et peut-être même plus, parce que cet homme-là a eu des retombées, a eu une influence assez importante, et je crois qu'on peut s'en nourrir et en apprendre encore aujourd'hui et demain et à venir. Donc, la programmation, elle est prévue sur la saison 2021. Par contre, j'espère qu'il va y avoir des retombées, qu'il va y avoir des suivis et une continuité, parce que le patrimoine, c'est quelque chose qui vient de notre passé, mais qui est toujours d'actualité et qui nourrit pour le demain.
Donc, il y a des capsules historiques, un timbre commémoratif, un roman graphique qui serait prévu pour 2021?
Oui, tout ça est en branle. Le timbre commémoratif devrait être publié, sorti, lancé au printemps. La capsule historique aurait dû être tournée aujourd'hui. Par contre, la pandémie nous oblige à reporter, alors on espère pouvoir la réaliser au mois de mars. Le roman graphique est prévu pour sortir à l'automne et il y a une exposition itinérante présentant des œuvres, des costumes des œuvres chorégraphiques de Fernando, mais aussi des artistes qui vont avoir créé des œuvres originales, peintures, 3D, maquettes, inspirées des ballets de M. No.
Il y a un site web aussi qui est disponible pour le Fonds chorégraphique Fernando, c'est fcfn.ca.
Oui, c'est ça, mais vous retrouvez toute la philosophie, la programmation, le répertoire qui est disponible. Et il y a aussi, entre guillemets, une campagne de financement parce qu'il y a un fonds philanthropique au nom de Fernando, lequel est prévu a pour mission de soutenir des activités patrimoniales en danse et la relève pour l'insertion au milieu de travail de jeunes danseurs. Alors, c'est une cause qui est complémentaire au fond, qui sont déjà offerts au niveau du soutien public gouvernemental.
Et avant de vous quitter, André Laprise, j'aimerais peut-être vous soumettre un exercice peut-être un petit peu difficile. En un mot, si vous pouviez décrire soit la carrière, soit l'héritage ou l'œuvre de Fernando, comment pourriez-vous décrire cela en un seul mot?
Transmission.
Oh, bien dit.
c'est tout le patrimoine. Si vous me permettez de nuancer. Personnellement, Fernando, je peux vous raconter l'anecdote. Fernando, en tant qu'homme, était très humble, détenteur d'un grand savoir. Et pour lui, il ne voyait pas l'importance et la valeur de son héritage artistique. Et ça l'a pris beaucoup de temps à le convaincre que ça valait la peine que ça lui survive. Et le patrimoine, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on apprend du passé pour mieux se projeter dans l'avenir. Et en danse, c'est la même chose. Alors, M. Nau était détenteur d'un savoir extraordinaire et finalement, il a accepté de jouer le jeu. Donc, c'est pourquoi le mot transmission décrit le mieux possible, parce qu'il avait ce savoir-là, il a accepté de jouer le jeu et aujourd'hui, on peut en bénéficier.
Merci beaucoup, André Laprise, fiduciaire du Fonds chorégraphique Fernando. Surveiller les nombreuses activités, les moyens de commémoration pour entourant les 100 ans de Fernando. Fernando aurait eu 100 ans le 27 décembre 2020. Merci encore une fois, M. Laprise.
Merci infiniment de votre intérêt et de vos belles questions. C'était inspirant de vous de jaser avec vous.
Je vous remercie beaucoup. Au revoir.
Merci.